Oui, Seigneur, veuille bénir encore ta parole, Seigneur. Que ta grâce, par la puissance du Saint-Esprit, agisse au milieu de nous, Seigneur. Comme tu as déjà commencé de le faire, que nous soyons ensemble devant toi, Seigneur Dieu. Amen. Alors, je vous lis dans Jonas, le verset 6 du chapitre 4. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Voilà cette ombre bienfaisante pour Jonas. L'ombre, le langage de l'ombre. En fait, c'était ce qui m'était venu à l'esprit, donc cette semaine. Et j'ai repris dans l'Écriture eh bien, ce qui est rapport avec l'ombre. Cette ombre bienfaisante pour Jonas, nous la retrouvons en plusieurs situations dans l'Écriture. Mais l'ombre est retenue de quatre manières, en fait, au lieu des pages, tout au long des pages de la Bible. Du moins, c'est ce que j'ai cru repérer, qu'il a quatre façons d'envisager l'ombre. L'ombre inquiétante, menaçante, l'ombre bienfaisante, l'ombre qui annonce et l'ombre qui passe. Et il est beaucoup question quand même de cette ombre menaçante qui est principalement l'ombre de la mort. Dans Ésaïe, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. Voilà qu'ils habitaient le pays de l'ombre de la mort. Et nous retrouvons cet passage d'Ésaïe, donc cité par Matthieu, au sujet de Jésus qui arrive dans une contrée. Et il est cité que donc le peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Petite nuance entre les deux passages, c'est que dans Ésaïe, il est question de marcher encore, d'habiter. Dans Matthieu, les personnes sont assises, totalement immobile, accablé en fait par cette ombre de la mort. Ils sont assis dans les ténèbres, ils sont assis dans la région et l'ombre de la mort. Dans Luc, il y a une plus grande généralité, puisque il ne s'agit pas d'une contrée. Lorsque donc Zacharie prophétise, il dit que Dieu a visité donc son peuple, hein, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Donc ici, il ne s'agit pas d'une contrée particulière, d'habitants d'un certain lieu, mais il s'agit finalement de tous les humains qui sont concernés, qui se retrouve plongé dans ce pays de l'ombre de la mort. La mort jette son ombre sur ce pays, les gens sont tristes, découragés, malades, sans projet. Ils sont en fait déjà prisonniers de la mort. D'ailleurs, l'apôtre Paul pourra dire, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés dans lesquels nous marchions autrefois. Et le psaume 23, lui, ne mentionne pas un pays, mais vous savez bien, au verset 4, une vallée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc la vallée de l'ombre de la mort, c'est en quelque sorte pour l'individu ce qu'est le pays, pour le peuple tout entier. C'est la même réalité qui est mentionnée ici, c'est la mort qui a resserré son emprise, et en fait l'ombre ici, c'est déjà la mort. D'ailleurs, les morts sont appelés des ombres par le prophète Ésaïe. Ésaïe 14, verset 9. Le séjour des morts s'émeut dans, jusque dans ses profondeurs à ton arrivée. Hein, c'est un passage particulier pour t'accueillir. Donc, il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Et puis au verset 26, chapitre 26, là ça vaut la peine de lire du verset 14 à 19. Ceux qui sont morts ne revivront pas, des ombres ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis, tu en as détruit tout souvenir. Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas nés. Que tes morts revivent. Que mes cadavres se relèvent, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Il s'agit donc bien ici des morts qui sont considérés comme des ombres, parce qu'ils habitent ce pays de l'ombre de la mort, là où tout est ténèbres, obscurité. La domination de la mort est donc imagée de cette manière par la parole de Dieu. Et il y en a un qui en a beaucoup parlé, qui l'a beaucoup exprimé, c'est Job, dans sa souffrance, qui a beaucoup mentionné l'ombre de la mort qui était sur lui. Et bien sûr, en contraste, vous avez entendu les paroles de l'Ancien Testament, déjà, qui mettent en évidence la puissance de la vie de Christ par rapport à ce pays de l'ombre de la mort. Puisque dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. Deuxièmement, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et puis la terre redonnera le jour aux ombres. Donc il y a la mention de cette réalité, bien sûr, dans l'Écriture. Mais il y a en face la prédication de la vie de Christ qui va être donnée et qui va permettre que soit vaincue cette domination de la mort. Alors, bien sûr, à travers les siècles, beaucoup ont vécu aussi à l'ombre menaçante de la guerre, de la violence, de la corruption, sont des déclinaisons en quelque sorte de l'ombre de la mort. Et c'est-à-dire dans des contextes où ces réalités étaient bien présentes et peu de nations ont échappé donc à toutes ces situations où les gens pendant de longues périodes vivaient réellement une oppression qui rendait la vie totalement difficile et éprouvante, et voilà, qui faisait que la vie était plus souffrance que espérance. Et c'est encore bien sûr le cas dans de nombreux pays. Pour nous, nous vivons plutôt à l'ombre de l'ambition humaine et d'une raison dévoyée. Et ce n'est pas une situation qui, sur le plan spirituel en tout cas, est satisfaisante, permette à notre nation de se développer spirituellement. La raison humaine, l'intelligence, la science ont été, on peut dire, captivées par une puissance d'égarement, une puissance d'erreur, qui fait qu'il n'y a pas grand-chose dans notre société qui donne une véritable espérance, d'où les mouvements de protestation, de révolte, etc. Mais les chrétiens, au sein de cette société actuelle, vivent à la lumière de l'Évangile. Nous vivons, l'Église porte la lumière au sein de cette ombre, et nous pouvons réellement nous réjouir de connaître la grâce de Dieu et de pouvoir en jouir ensemble, la partager, la vivre entre nous, la partager autour de nous. C'est vraiment la bonne nouvelle de l'Évangile face à toute cette puissance qui est à l'œuvre pour décourager l'homme de croire, d'espérer, d'aimer, comme cela a été mentionné. Donc ça, c'est la première réalité qui est largement mise en évidence dans l'Écriture, l'ombre de la mort, et la réponse qui est donnée par la présence de Jésus-Christ. Mais il y a aussi cette ombre bienfaisante qui est signalée, et celle dont jouit Jonas ici, hein, une ombre qui vient casser la chaleur, qui vient le protéger de l'ardeur des rayons du soleil. L'ombrage, là quand on dit ombrage, c'est davantage cette notion qui est mise en évidence. Ésaïe 25, 4 à 5. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. Et donc cette ombre-là, nous la retrouvons souvent dans l'Écriture, parce qu'il y a des réalités qui nous protègent contre des menaces permanentes. Les ennemis sont une menace permanente dans toutes les sociétés, mais les calamités, toutes sortes de choses sont là qui amènent la destruction, qui nous mettent sous la menace de la destruction. Et il y a donc des réalités qui s'interposent entre nous et la destruction. Et donc on les retrouve mentionnées dans l'Écriture. Il y a cette parole de l'Ecclésiaste, chapitre 7, versets 11 à 12. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil, car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Donc la destruction nous guette, l'ombre de la mort, lorsque la précarité s'installe, et d'autant plus lorsque la folie s'installe. Mais dans les deux cas, il y a une réalité donc qui peut s'interposer, et nous échappons au territoire de la destruction. Tout autour de nous, nous pouvons observer la destruction, mais nous y échappons parce que nous sommes réfugiés à l'ombre. Alors d'abord est mentionnée l'ombre de l'argent, et puis l'ombre de la sagesse. Il faut reconnaître que l'argent protège de la calamité matérielle, de la calamité physique. Bien sûr que beaucoup de personnes ont besoin de la protection de l'argent pour leur vie. Sans argent, ils se sentent vulnérables, exposés et voués à la destruction. Donc l'argent procure une ombre bienfaisante, effectivement, à ceux qui sont en grande difficulté. Et si nous n'avions pas, nous, chacun d'entre nous, des comptes en banque, eh bien, nous serions exposés et certainement en difficulté, donc en souci concernant notre avenir. Nous sommes tellement habitués, en fait, de vivre à l'ombre de l'argent. Bon, c'est une réalité et il ne faut pas la négliger. Sauf que ici, c'est un constat. On peut dire que l'être humain se met à l'ombre de l'argent pour être protégé. Mais l'Écriture nous donne la recommandation de nous mettre à l'ombre de la sagesse. Et avoir la sagesse comme référence, comme secours, comme appui, c'est bien préférable encore que d'avoir l'argent pour secours. Donc, être à l'ombre de l'argent c'est une réalité que partage, en fait, rechercher l'ombre de l'argent, c'est une réalité que partagent tous les humains, en réalité, mais nous sommes incités par la parole de Dieu à demander une protection bien plus grande en nous mettant à l'ombre de la sagesse. Il y a d'autres exemples, hein. Dans la Genèse, lorsque les anges viennent avertir Lot de la destruction qui va venir sur Sodome, il les accueille chez lui et les habitants de Sodome veulent venir donc faire du tort à ces anges qui apparaissent pour eux comme des hommes. Et Lot leur répond : ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Donc lorsque nous accueillons quelqu'un chez nous, nous le mettons aussi à l'ombre, nous lui offrons une protection particulière. Mais toutes les ombres ne sont pas bonnes à rechercher, puisque Ésaïe dit au peuple d'Israël, chapitre 30, verset 3, « La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. » Parce qu'à cette période-là, le peuple d'Israël cherchait sa protection en Égypte et non pas auprès du Seigneur. On peut mentionner une ombre bienfaisante particulière. Dans Actes 5, versets 14 à 15, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Un moment très particulier dans le témoignage de l'Église, puisqu'il suffisait de l'ombre de l'apôtre Pierre pour apporter la guérison aux malades. Alors, non pas Pierre, mais la puissance du Saint-Esprit qui le remplissait et qui permettait cette guérison. Mais voyez comment la présence de Dieu à travers ses apôtres était telle que même l'ombre de l'apôtre suffisait pour la guérison à ce moment-là. C'est que justement, c'est l'ombre du Très-Haut, l'ombre du Sauveur, l'ombre du Seigneur qui nous aime, et c'est bien cette ombre-là qu'il faut rechercher avant tout. Hein, comme le psaume 91, verset 1 dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et c'est Dieu lui-même, bien entendu. Même si l'ombre de l'argent tombait, même si l'ombre éventuellement de la sagesse tombait, si nous avons l'ombre supérieure de la présence de notre Seigneur que nous connaissons comme notre Créateur et Sauveur, alors nous sommes à l'abri. Nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Psaume 121. Et puis aussi, Ésaïe 49, verset 2. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Ici, le contexte, j'ai l'impression que c'est plus qu'une protection. Il s'agit même d'une force qui est donnée par la présence de Dieu sur la main qui combat. Le Seigneur est là à l'œuvre avec celui qui combat. Non seulement il le protège, mais il lui donne aussi la force de la victoire. Donc le Seigneur lui-même est notre ombre pour nous protéger, mais plus encore pour être notre vie et notre force. C'est bien là que nous devons aller auprès de lui, le chercher qui couvre vraiment toute notre vie. Donc, ombre bienfaisante de la présence du Seigneur par rapport à l'ombre menaçante de la mort. Et puis, il y a l'ombre qui est considérée d'une autre façon, c'est-à-dire l'ombre qui est la projection de la réalité. Lorsque l'apôtre Paul enseigne au sujet de la loi, il dit, Colossiens 2, versets 16 à 17, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc dans ce cas, l'ombre nous permet, en tournant la tête, de remonter au corps qui la suscite. Et quand nous voyons le corps, ben, l'ombre n'a plus d'importance. Si nous ne voyons qu'une ombre, ça nous dit beaucoup de choses. Déjà, l'ombre de la personne. Hein. Mais si nous remontons de l'ombre à la personne elle-même et que nous voyons la personne, ben, nous n'avons plus besoin de son ombre. Eh bien, c'est la même chose concernant l'enseignement de la vérité. Elle a été d'abord donnée à travers la loi de Moïse, qui était une ombre de Christ et de son œuvre. Au chapitre 8 de l'Hébreu, versets 4 à 5, s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et au chapitre 10, verset 1, « En effet, la loi possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses. Elle ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. » Mais voilà, l'ombre a été suivie de la réalité. Christ est venu sur la terre, il a accompli l'œuvre, et il est élevé, alors bien sûr, dans les cieux. Mais nous avons Christ maintenant, qui est la réalité, qui n'est pas un symbole. Christ n'est pas un symbole, c'est la réalité du salut de Dieu. C'est la réalité de la grâce de Dieu, c'est la réalité de la présence de Dieu dans nos vies. Et donc, nous devons apprendre surtout à connaître Christ pour être dans la réalité du salut. Et parfois, nous allons voir dans l'Ancien Testament, dans la loi, pour considérer encore l'ombre de ces choses, mais pour nous ramener constamment à la personne même de Christ qui a été révélé, qui a accompli l'œuvre parfaite. N'en restons pas à l'ombre, ou ne retournons pas à l'ombre des choses, mais enrichissons-nous de la réalité de Christ. Et puis bon, il y a une quatrième façon de considérer l'ombre dans l'Écriture, c'est l'ombre qui passe, celle qui évolue si vite lorsque le soleil décline en fait, et qui finalement se fond et se perd dans l'obscurité. C'est l'image de la vie qui passe. Psaume 102, 12, mes jours sont comme l'ombre à son déclin, je me dessèche comme l'herbe. 1 Chronique 29, 15, nous sommes devant toi comme des étrangers, des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Ecclésiaste 8, 13, mais le bonheur n'est pas pour le méchant, il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de crainte devant Dieu. D'autres passages, bien sûr, j'ai pris qu'une sélection de passages de l'Écriture, mais donc qui parle de cette réalité finalement de la fuite du temps, de la fuite de la vie, qui fait que notre vie est également comme cette ombre qui passe très vite. Et ça doit nous amener à une méditation, bien sûr, pour être vraiment parmi les justes et non pas parmi les méchants, hein, qui n'ont pas la crainte de Dieu et dont la vie passe finalement pour aboutir dans l'ombre de la mort, mais être vraiment parmi les justes qui prolongent leurs jours, non seulement qui les prolongent sur la terre, mais qui les prolongent dans la lumière de Dieu. Voilà ce que le Seigneur peut nous rappeler, donc à travers ces passages de l'Écriture, et lorsque dans nos vies, eh bien effectivement, des ombres sont à l'œuvre, vraiment mettons en œuvre la foi pour que la lumière de la grâce de Dieu puisse nous délivrer de ces ombres, et que là vienne, eh bien, la louange, la gloire, hein, la libération, la joie, la vie de Christ. Nous puissions vraiment nous réjouir toujours de connaître le Seigneur de la vie et non pas cette puissance ennemie qu'est la mort. Amen.